pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, nous consommons 7 fois plus de charbon qu'il y a un siècle et c'est comme cela pour toutes les ressources naturelles. Nos pays se développent et nous sommes de plus en plus nombreux, donc nous puisons des quantités immenses de matière dans les entrailles de la terre pour satisfaire nos besoins. Mais le système se fissure parce que ces ressources ne sont pas illimitées et que pour l'instant nous n'avons pas trouvé une autre planète où habiter. Personne ne veut revenir en arrière, alors on fait quoi ? Eh bien, il nous faut repenser d'urgence notre conception de l'économie. Et ce n'est pas un luxe de pays riches, c'est en tout cas la thèse de notre invité, Roan Martinez-Allier, auteur de « L'écologisme des pauvres », une étude des conflits environnementaux dans le monde, publiée aux éditions Les Petits Matins.
C'est pas du vent, sur RFI.
Bonjour, Juan Martinez Allier.
Bonjour.
Vous êtes professeur en économie et en histoire de l'économie à l'Université Autonome de Barcelone. Vous êtes membre du comité scientifique de l'Agence européenne pour l'environnement et président de la Société internationale pour une économie écologique. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire une économie écologique ? Parce qu'en général, on considère plutôt que l'écologie est un frein pour le développement économique.
Non, c'est pas comme ça, parce que l'économie, c'est... Dans l'écologie, n'est-ce pas? On avait de l'environnement depuis toujours dans le monde, et avant qu'il y ait des êtres humains, et après il y a eu des sociétés humaines, et après il y a eu l'économie des marchés, il y a seulement quelques centaines d'années. Alors on doit avoir l'économie dans l'écologie. Et c'est ça qu'on fait dans l'économie écologique. L'économie écologique, c'est un critique de la théorie économique, parce que les théories économiques, on enseigne ça à la faculté, on enseigne sur les marchés, les prix, les transactions monétaires, et on oublie l'environnement. On peut pas oublier l'environnement, n'est-ce pas?
Mais ça fait 150 ans qu'on oublie un petit peu, hein, faut reconnaître.
Ouais.
Alors, à vos côtés, Marc Dufumier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agronome et enseignant-chercheur français, donc à la chaire d'agriculture comparée et de développement agricole à AgroParisTech. Et alors, vous avez signé la préface de ce livre, dont c'est la première édition en français, mais qui a déjà été édité 3 fois en espagnol. Et en fait, ce livre est un classique aujourd'hui.
Oui, et donc je l'ai préfacé très volontiers, parce que j'adhère à la plupart, presque toutes les idées évoquées par M. Juan Martinez, en particulier donc celle qui vient d'être évoquée, à savoir que l'économie fait bien partie de notre environnement, de l'écologie, et il peut y avoir une autre économie que celle soumise à l'idéologie dominante des lois du marché et autres, et il nous faudra un jour arriver à raisonner très intelligemment, de façon parfois très économe, les ressources naturelles, notamment les ressources naturelles non renouvelables.
Alors ce n'est pas dans cette émission, Juan Martinez Allier, qu'on va vous contredire, hein. Évidemment que pour nous, l'économie fait partie de l'écologie et pas l'inverse. Maintenant, c'est loin d'être partagé par l'ensemble des pays industrialisés, notamment par les grands pays économiques de ce monde, les grandes puissances industrielles. Donc, comment faire en sorte que la matrice change ? Alors, vous dites, la crise de 2008, la crise économique de 2008, a quand même secoué les consciences, ou aurait dû, en tout cas, secouer les consciences.
Oui, parce que je pense qu'après la crise de 2008, on a maintenant une discussion encore entre les néolibéraux, qui disent ce qu'ils font, c'est l'austérité, c'est de baisser les salaires, peut-être, de baisser les dépenses des investissements publics, pour récupérer l'expansion économique. Mais il y a eu une résurrection des keynésiens, je ne sais pas si en France, mais des gens comme Paul Krugman, Stiglitz ou Fitoussi, qui dit qu'il faut des investissements publics, il faut augmenter même la dette publique. Et le débat, c'est comme ça. Mais c'est un faux débat parce qu'il n'y a pas cette perspective de l'économie écologique. Ce qu'on dit dans l'économie écologique, c'est pas une question de payer toutes les dettes, on peut pas. C'est pas une question de faire l'expansion. C'est une question d'avoir ce que Tim Jackson dit, la prospérité sans croissance. Parce que la croissance, aujourd'hui, ça veut dire plus d'énergie, plus de matériaux, plus de conflits dans le monde, parce que les matériaux, il faut les extraire de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, et plus de changements climatiques, et plus de pertes de biodiversité. Alors, il faut, je pense, arrêter la croissance dans le Nord et avoir une économie plus égalitaire dans le monde et plus écologique.
Alors, on ne peut pas vous donner tort maintenant, mais on le verra ça un petit peu après.
Mais il n'y a pas les, il n'y a pas les.
C'est difficile de passer.
Il n'y a pas encore une politique de ça.
Oui, voilà, il n'y a pas de politique de ça, comme vous le dites. Marc Dufumier, vous acquiescez, donc vous êtes complètement d'accord avec ce constat. Mais c'est vrai que cette crise de 2008, on passe notre temps dans cette émission à dire la crise économique est une opportunité pour rebondir sur autre chose, mais dans les faits, comme Juan Martinez Aller vient de le dire. Ça ne change pas.
Oui, nos dirigeants et un grand nombre d'intellectuels n'ont pas encore compris que l'important, c'était d'accroître le bien-être, mille formes de bien-être chez une multitude de gens, et que ça ne se mesure même pas toujours en termes monétaires. Le livre, de ce point de vue-là, est exemplaire pour montrer que l'expansion du bien-être d'une multitude de gens est nécessairement multicritère, avec y compris des critères qui ne peuvent pas se mesurer en termes monétaires. Et la grande erreur de ce que nous appelons la croissance, c'est de vouloir toujours mesurer tout avec une seule unité de mesure qui s'avère être l'euro, le dollar, en définitive, le profit.
Alors, il est urgent de s'engager dans la transition écologique, vous le dites dans votre livre, en disant qu'il faut tenir compte de l'économie réellement réelle. Alors, expliquez-nous comment est-ce que vous voyez, vous, l'économie, et qu'est-ce que c'est, en parallèle, cette économie réellement réelle que l'on a oubliée, finalement.
Parce que l'économie, même, parce que je me rappelle, il y a le président Sarkozy, il a appelé cette commission internationale, avec Stiglitz et Amartya Sen, des économistes, et on discute de ça depuis 30 ans, qu'il faut changer le système de comptabilité macroéconomique, là, comme on fait les calculs des produits nationaux bruts, ce qu'on appelle ça en économie la comptabilité macroéconomique. Mais on parle de ça, et même Sarkozy, à l'époque, il a dit que la joie de vivre, c'était plus important que... Il était dans un moment euphorique, peut-être, sur sa vie privée, c'est pas... Mais c'est vrai que c'est plus important, la joie de vivre, la félicité, que l'argent. Et on discute si avec plus d'argent, on a plus de félicité, que c'est pas le cas. Il faut avoir de l'argent. Alors, tout ce système d'indicateurs... Et à Bruxelles, on parle de ça tous les temps aussi. On dit en anglais « beyond GDP ». Il faut aller...
Après, le produit intérieur brut.
Au-delà de ça.
Le fameux PIB.
Mais on parle et on fait rien. On fait rien, vraiment rien, pour changer le système de la comptabilité macroéconomique, pour mettre des autres critères, d'une façon qu'il devient important pour la politique. Pour la politique au niveau local, au niveau étatal et de l'Union européenne, n'est-ce pas? On parle et on fait rien, c'est ça.
Ouais, c'est vrai que Marc Dufumier, le produit intérieur brut, ça fait plusieurs décennies qu'on dit qu'il faudrait le repenser, que c'est un mauvais indicateur, parce qu'en fait, il ne tient compte que des rentrées de matières premières et des sorties de produits manufacturés, mais pas du bien-être, etc. Et surtout pas de la détérioration environnementale que tout cela implique.
Oui, c'est-à-dire que quand des agriculteurs aménagent un très beau bocage, très agréable pour aller visiter et se reposer et autres, c'est jamais comptabilisé comme un bienfait. Quand le lait pas cher nous coûte très cher parce qu'il y a des algues vertes, on est obligé de payer des impôts pour retirer les algues vertes. Éventuellement, le travail qui consiste à retirer les algues vertes est comptabilisé en positif comme un produit, comme un service rendu à la nation. Mais on oublie que les algues vertes, c'est quand même très désagréable. Comment vous mesurez ça à travers le seul critère du produit intérieur brut? Non, il faut prendre en compte les éléments de bien-être tels que les manifestent les différentes catégories de gens. Et puis, on va essayer d'agencer ça tous ensemble.
Mais... Alors, vous qui êtes dans de nombreux cercles de réflexion, même avec des décideurs. Qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas? Pourquoi est-ce qu'on bégaye comme ça?
C'est pas tant l'incompréhension scientifique hein, des écosystèmes, du cycle du carbone, du cycle de l'azote, l'effet de serre et autres. Tout ça, les scientifiques ont déjà informé beaucoup de gens. Mais c'est que quand on essaye de faire en sorte que, bon, dans une économie de marché, les gens essayent de minorer leur consommation de ce qui est préjudiciable au bien-être ou maximiser leur bien-être, la question c'est, est-ce qu'on pourrait pas taxer ce qui est rare et ce qui est néfaste? Et alors on nous dit, ah ben c'est de l'écologie punitive. On oublie tout simplement que cette taxe pourrait y compris servir à subventionner des biens qui jusqu'à présent n'étaient pas rémunérés et pour lesquels, par exemple dans l'agriculture, ben, les agriculteurs mériteraient de rémunérés pour un service d'intérêt général. Alors il faut savoir que ces idées-là, qui ont déjà été évoquées maintes fois par des économistes écologiques, les politiques, ça leur fait peur et... Un certain nombre de syndicats, de corporations vont commencer à dire « Ah, vous nous taxez, c'est punitif, on arrête là ». Et les politiques parfois manquent un peu de courage. L'écologie, elle peut être joyeuse, mais on a quand même le droit de taxer ce qui fait mal.
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
C'est pas du vent sur RFI en compagnie de l'économiste Juan Martinez-Allière, auteur de L'écologisme des pauvres aux éditions Les Petits Matins et de l'agronome Marc Dufumier. Alors vous avez signé la préface de ce livre dans laquelle vous remerciez Juan Martinez-Allière finalement de nous rappeler que les plus pauvres peuvent aussi être écologistes.
Oui, à la fois les plus pauvres sont souvent les plus affectés par les dégâts environnementaux. Prenez les effets qui résultent du réchauffement climatique global, c'est quand même une intensité, une fréquence accrue des cyclones, des tempêtes, des inondations et des sécheresses, c'est souvent les plus affectés. Et leur combat pour éventuellement contrecarrer ça et essayer de préserver pour leurs seules conditions de vie, etc., est trop souvent méconnu. Et c'est vrai que l'intérêt du livre, c'est de raconter toute une série de luttes qui ont été menées par les uns et par les autres, où on voit que ces couches sociales les plus pauvres, parfois souvent les plus reculées, on dit parfois les populations autochtones, c'est-à-dire parfois même méprisées par certaines classes dominantes, sont celles qui, à la limite, savent peut-être le mieux construire un espèce de nouvel environnement et autres, mais bon, ils sont quand même extrêmement affectés par les dégâts environnementaux. On est dans un monde de plus en plus mondialisé, globalisé, et ils payent très cher cette dette.
Alors, on vous en parle souvent dans C'est pas du vent. La pêche industrielle puise de plus en plus profond des poissons de plus en plus petits, à tel point que dans certaines zones, l'activité artisanale devient difficile faute de ressources. C'est le cas au Sénégal, où 600 000 personnes vivent de la pêche. C'est le premier secteur d'exportation du pays. Mais les bateaux venus d'Europe et d'Asie menace malheureusement cette pêche artisanale, comme l'explique ce témoignage recueilli par David Bachet.
Issa Ndoué, je suis pêcheur depuis 1998, j'avais 18 ans. J'ai tenté de rallier les îles de Canaries là, c'était en 2006. À ce moment, j'avais 25 ans. Parce que en ce moment-là, vraiment avec la rareté du poisson, bon, je vivais par exemple une vie vraiment qui était dure pour moi. La pêche ne me permettait pas d'arriver là. Et pourtant j'avais une pirogue là. J'avais une pirogue et un moteur. Et ça ne peut pas même me satisfaire de faire mes dépenses là. Chaque jour, il n'y a pas de poisson. Chaque jour je pars à la pêche, mais je ne peux rien comme. Je rentre brodue. Je rentre brodue et que cela vraiment m'a affecté et m'a poussé d'aller vers l'Europe. Oui, j'ai parti avec d'autres aussi, d'autres beaucoup pêcheurs, beaucoup pêcheurs aussi. Nous avions fait au début des cotisations de 400 000 francs CFA. Parce qu'il y a même des gens qui ne l'avaient pas, qui ont bazardé leur propre matériel de pêche. Après ça, on va préparer une pirogue neuve, on va acheter trois moteurs, on va acheter aussi beaucoup de carburant et le ravitaillement. C'était vraiment très dur. C'était 7 jours et je suis arrivé aux îles de Canaries. On nous a apporté dans les camps de militaires et j'ai vécu là-bas 38 jours. Et après, on nous a expulsés. J'ai vraiment vu, mon père était pêcheur, grand-père aussi. Bon, la retraite, pour moi, la retraite de la pêche, c'est pas bon.
c'est pas bon. Parce que si tu es retraité, ton propre fils va essayer de prendre ta pirogue, de prendre ta place, et il va échapper aussi. Échapper, ça veut dire que tu vis vraiment toujours un quotidien qui n'est pas agréable. La vie de pêcheur aussi devient de plus en plus dure, parce que le poisson devient de plus en plus rare. De plus en plus rare.
Juan Martínez Alier, c'est le genre de situation que vous dénoncez dans votre livre et qui prouve que les enjeux écologiques ne sont pas un luxe de pays riches, ça concerne tout le monde et notamment les plus pauvres.
Non, vous savez, c'est pas seulement la pêche, parce que c'est vrai, la pêche, il y a cette conflit entre la pêche artisanale et la pêche des bateaux grands. Mais aussi, si on regarde l'Afrique, on est encore une fois dans l'exploitation de l'Afrique. C'est les pétroles de Nigeria, par exemple, et toute la lutte qu'il y a eu dans les deltas de Niger contre l'entreprise Shell, par exemple, et aussi l'uranium de Niger pour des entreprises françaises, n'est-ce pas? Alors, on tire des ressources de l'Afrique et on ne laisse pas les gens émigrer en liberté. Si on voit les choses de point de vue de l'Afrique, c'est l'injustice énorme, n'est-ce pas?
Et c'est pour ça que vous dites que la justice environnementale est une valeur qui est en train de monter à l'échelle de la planète.
Oui, et aussi qu'il y a des dettes écologiques qu'on a pour les changements climatiques, mais aussi pour tout ce commerce inégal, écologiquement inégal, n'est-ce pas?
Alors, on va revenir sur cette notion de dette écologique, mais c'est vrai, Marc Dufumier, que là, on comprend ce que c'est l'écologisme des pauvres.
Oui, on peut rajouter l'accaparement des terres, en particulier, l'accaparement des poissons et autres. Les plus pauvres n'ont pas les moyens de défendre leur base de subsistance. Ils sont directement spoliés et effectivement, on leur demande de rester dans leur misère et de pas pouvoir bouger.
Alors, il y a des discussions économiques entre les États pour s'entendre sur le partage des ressources, par exemple, mais le dialogue est toujours inégal.
Oui, non, il y a les partages. Il y a eu des discussions sur le partage de l'Afrique, je ne sais pas, en 1885 à Berlin, la conférence. Et alors, c'était un pillage ouvert, n'est-ce pas? Le Congo pour les Belges, tout ça. Et après, il y a eu des... Mais les discussions actuelles, c'est pas entre les États, peut-être, c'est plutôt entre les entreprises. Les entreprises, elles sont partout, même les Chinois maintenant. Il y a un essor de l'exploitation parce que le métabolisme de l'économie, ça monte. L'énergie, les matériaux. Alors, on voit partout des entreprises européennes, mais aussi nord-américaines, canadiennes, c'est les minerais partout, qu'ils font ces exploitations de ressources. Ils paient un peu, mais les gens ils ont des protestations tout le temps, des paysans pauvres, des femmes plutôt que des hommes peut-être, parce que les femmes, ils reçoivent pas l'argent, et aussi des populations indigènes. Et c'est ça qu'on appelle l'écologisme des pauvres et des indigènes, on doit dire. Et si vous avez lu peut-être le livre nouveau de Naomi Klein...
Pas encore, mais il est sur ma table de chevet.
Climatique. Il pense que ces gens, ils sont les acteurs principaux sur la question des changements climatiques. Et c'est très clair les cas du delta de Niger en Afrique, parce que ce sont les Ogoni, les Ijaw, qu'ils ont dit depuis 30 ans, qu'ils veulent laisser le pétrole en terre, pas seulement pour les questions des changements climatiques, surtout pour des questions locales, n'est-ce pas? Alors, il y a cette réaction que je pense que ça, on doit incorporer ça dans toute la discussion internationale des questions sur l'environnement.
Alors, comment faire pour que la situation change et que nous arrivions à mettre en place un partage plus équitable et plus durable des ressources? Restez avec nous, on en parle dans quelques minutes, juste après le flash d'info. À tout de suite.